Vous écoutez IDFM, il est midi.
Le gros marché, un marché responsable et conscient. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute d'IDFM, la radio du bien-être et animaux et nature jusqu'à 13h, chaque premier samedi de mois. Aujourd'hui, mes invités sont Daisy pour The Gros Marché, Alexandre pour Broplante, Julia pour Vehement Painting, Edna pour Shin With Me et Elodie pour Bonjour Hier. The Gros Marché est un marché itinérant. Il regroupe des petites entreprises vintage, des créateurs, des artistes, des illustrateurs, des tatoueurs, des décorateurs, des ateliers d'upcycling, des animations et j'en oublie plein. The Gros Marché, c'est autant que possible des entreprises françaises, des enseignes de seconde main, des petits prix et surtout, et ça c'est important, beaucoup d'exposants responsables et éco-conscients. Désormais, il a une place durable au Ground Control, vous savez cet espace industriel et alternatif qui se trouve à la gare de Lyon, très familial, ludique, festif et culinaire. Écoutons sans plus attendre Daisy, la boss de The Gros Marché.
Alors, depuis quand ça existe, The Gros Marché ?
Alors, The Gros Marché, on a créé ça il y a un an, tout juste. Donc, un an et quelques mois. Et du coup, on a fait une quinzaine de dates, à peu près, en tout.
Qui est à l'initiative de cette création ?
On est deux. On a donc moi, Daisy, et Julien, qui est mon compagnon dans la vie, avec qui on travaille du coup ensemble sur ce projet.
Et pourquoi vous êtes lancé déjà dans ce projet et après
pourquoi avoir trouvé ce mot The Gros Marché?
Alors on voulait quelque chose de drôle et du coup et quelque chose qui est percutant voilà. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas The Gros Marché, c'était plutôt un petit clin d'œil parce que le fait qu'on veut faire en fait le projet initial c'est de faire des énormes marchés. Voilà, version XXL, aujourd'hui tu as 55 exposants par exemple, la semaine prochaine on en aura 30, donc c'est vraiment faire des très très gros marchés pour proposer une multitude d'exposants et de créations et de vintage, donc en fait ça a coulé de source qu'on appelle ça The Gros Marché, on trouvait ça drôle.
Et de quel milieu tu viens ?
Alors moi je viens de l'archi à la base.
Architecture ?
Ouais voilà, après j'ai fait beaucoup de brocantes sur Insta et puis maintenant je suis dans l'orga.
Mais des brocantes pour une boutique personnelle ?
Ouais, j'avais une boutique personnelle qui s'appelle Daron.
Qui existe toujours ?
Qui existe toujours sous la
plus le temps, quoi.
Voilà, sous la forme d'Instagram, voilà. Et maintenant, je me consacre à 100% sur l'organisation d'événements.
Ouais. De cet événement-là, The Gros Marché.
Ouais, complètement, ouais. On travaille que pour ça, ouais.
Alors, donc, moi, je pensais que c'était que de la mode, mais en fait, c'est pas que de la mode. Par exemple, là, on est à la Cité Fertile, hein, au mois de novembre. Il y a un coin qui est plus mode, et puis il y a un coin design, création.
Complètement, ouais. Bah, en fait, vu que moi, j'aime beaucoup la brocante, parce que ça vient de ma passion un peu, j'avais envie de mélanger, effectivement, vintage, brocante, mais aussi... de la création Made in France avec du bijou, de l'illustration. Je sais pas si t'as vu, mais on a aussi du flash tattoo.
Ouais, ah oui, voilà. Ça fait partie de The Gros Marché.
Ouais, tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience à 360, je dirais. C'est-à-dire, tu peux t'acheter une fringue, tu peux aller en brocante, tu peux te faire tatouer, mais tu peux aller aussi t'acheter une paire de boucles d'oreilles et puis discuter avec une illustratrice. Enfin, toi, c'est ça l'idée.
Mais est-ce qu'il y a de la création culinaire par hasard? Par exemple, hein, dans The Gros Marché, parce qu'à l'extérieur, dans la cité fertile, on trouve des petites boutiques, des petits stands pour manger, mais à l'intérieur?
Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelque chose, on a encore du travail à faire sur ça, sur les exposants alimentaires, je dirais. Par contre, on a de temps à autre des dégustations de cookies CBD ou des choses comme ça. Là, on peut, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille pour l'année prochaine. Ouais.
Alors, The Gros Marché, c'est itinérant, on peut dire ça, mais c'est aussi, vous avez aussi une boutique à l'année au Grand Contrôle.
Ouais, on a une boutique à l'année au Grand Contrôle qui reprend les concepts du marché. C'est-à-dire que tous les mois, on change complètement l'univers de la boutique et tous les mois, il y a des nouvelles marques, comme ici, des nouveaux exposants en fait. L'idée, c'est de faire tourner les boutiques et tourner les marques au sein même de la boutique The Gros Marché.
Alors, il y a une question que je me posais aussi, est-ce que The Gros Marché a un site internet ou pas?
Pas du tout, et c'est pour l'instant...
C'est ça qui vous différencie des autres, c'est que vous voulez pas de plateforme pour le moment?
Non, nous on veut pas de plateforme, on a un site internet qui regroupe nos dates, mais on n'aura jamais de plateforme type vente par internet ou quoi que ce soit. Parce que l'idée vraiment, c'est la rencontre en fait. L'idée, c'est vraiment de rencontrer les gens, de rencontrer les boutiques vintage, de rencontrer les créateurs, les illustrateurs. Et c'est vrai que la plateforme est assez... Sur Internet, c'est assez froid. Par contre, on a un site Insta qui, là, qu'on alimente quotidiennement.
Oui, vous avez beaucoup d'abonnés. Et ce qui est aussi, ce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est que sur un marché, en fait... On peut toucher la marchandise, on peut tester, on peut essayer. Si ça nous plaît, on prend. Il y a quand même ce contact physique avec tout ce qu'on a envie d'acheter ou de vendre.
C'est ça, on a un contact, on a un sourire, on a... Enfin, tu vois, c'est quand même assez différent d'avoir une plateforme avec des vêtements, voilà, avec des vêtements, avec des fonds blancs. On ne voit pas l'univers de la marque. Là, tu peux voir, on a une dizaine de marques qui sont présentées, en tout cas pour la partie boutique vintage vêtements. Elles ont tout un univers, elles ont toutes des sélections plus ou moins différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant pour le client et pour le visiteur surtout de pouvoir voir cet univers et de se dire oui, j'achète vintage, mais j'achète aussi à Laure, j'achète aussi à Fabien, j'achète aussi, enfin voilà, c'est on individualise le marché et c'est une volonté de faire ça. Ouais.
Et alors, comment tu vas sélectionner les boutiques? Hein, comment tu vas sélectionner tous ceux que... Et est-ce qu'il y a un turnover? Est-ce que ça change aussi?
Alors ça change effectivement presque tout le temps. On a des nouveaux exposants qui arrivent régulièrement.
Il faut bien que tu les sélectionnes.
Complètement, on les sélectionne sur Instagram. Alors là, peu importe le nombre d'abonnés, ça c'est pas ce qu'on regarde. On regarde vraiment le feed Insta, savoir ce qu'elle propose, il ou elle propose, pardon. Et la sélection se fait vraiment sur Instagram.
Que sur Instagram, tu les rencontres pas avant?
Pour l'instant,
aller voir leur boutique, t'as peut-être pas le temps.
Bien sûr, si on peut aller voir les boutiques, effectivement. Ça c'est la première sélection se fait sur Instagram. Après c'est vrai que si elles ont des boutiques, si elles font des ateliers, la dernière fois j'étais au Queer Market en tant que visiteuse parce que j'avais envie de voir aussi d'autres exposants, etc. Tu vois. Donc oui, on fait d'autres marchés, on va sur Instagram pour regarder et c'est comme ça qu'on fait notre prospection.
Est-ce que vous allez en Europe?
Alors, très bonne question. J'aimerais beaucoup aller vers Bruxelles. Voilà. Après, pour l'instant, on fait beaucoup de dates en région.
Donc déjà, pour les auditeurs et les auditrices, ce n'est pas qu'à Paris. Hein.
Pas du tout, non. Là, dans deux semaines, on est au Havre. L'année prochaine, on sera à Dijon, Lille. J'aimerais bien aller sur Lyon, peut-être Montpellier aussi. Donc l'idée, c'est de faire l'année prochaine une date en région, une date sur Paris.
Je disais ça parce que est-ce que vous avez des vendeurs qui viennent de l'étranger?
Ah,
aussi.
Très peu.
Que des Françaises.
Pour le coup, on est sur une sélection. En tout cas, on est sur des sociétés qui sont basées en France. Après, très peu d'étrangers, effectivement, ouais.
Et tu me disais que ça tourne, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai du mal à m'imaginer. Au Grand Zéro, non c'est pas Grand Zéro, Grand Contrôle, pardon, il y a plusieurs boutiques, est-ce qu'elles vont se retrouver ici? Non, ça change, hein. Et est-ce qu'elles sont fidèles ou pas?
Alors nous on arrive à fidéliser nos exposants, les événements, après il y a des événements effectivement qui marchent moins bien que d'autres, hein, faut être assez honnête, mais pour l'instant, on arrive à fidéliser nos exposants, ils reviennent, donc ils nous font confiance. Entre la boutique à Grande Contrôle et les événements sur par exemple des événements comme la Cité Fertile, là on peut avoir des exposants qui font les deux parce que ça marche, et d'autres pas du tout, donc qui vont choisir de faire plutôt des events plutôt que de la boutique, voilà.
Et alors, comment tu les choisis les events, les pop-up, parce que ça c'est grand là quand même, la Cité Fertile, c'est pas une boutique, c'est comme The Grand Control aussi, c'est grand. C'est seulement ces deux endroits à Paris?
Non, alors on travaille avec la Rotonde, Stalingrad, on travaille avec la Bellevilloise, on travaille aussi avec le Hasard Ludique.
Et qui choisit ces endroits-là, c'est toi qui les choisis ou...
Alors, bon, on a eu la chance d'avoir été prospecté par pas mal de lieux déjà, ça c'est chouette. Et ensuite, on garde les lieux avec lesquels on a envie de travailler, qui ont un peu la même utopie. C'est-à-dire que la Cité Fertile, elle te propose quand même une utopie éco-responsable, etc.
Alternative.
Donc, voilà, complètement. Donc c'est avec ce genre de lieux qu'on a envie de travailler et on va continuer l'année prochaine comme ça.
Ça devient de plus en plus à la mode, ça émerge un peu parce qu'en France, tu vas à Berlin, des endroits comme ça, il y en a plein, hein.
C'est vrai. Ouais.
Aux États-Unis aussi.
Ouais, ouais. Ça commence à émerger et puis on est content, tu vois, d'être dans ce genre de lieu en fait. Ouais. C'est beau.
On pense en fait qu'on trouvera que de la mode ou que de la fripe, mais en fait non. J'étais surprise de trouver du design, de la décoration, mais toujours dans un angle éco-conçu. Vous faites attention à ça?
On fait complètement attention à ça sur notre prospection. L'idée, c'est de garantir aux visiteurs que s'ils achètent à The Gros Marché, ils achètent avec la possibilité d'acheter responsable et conscient. Donc on fait attention effectivement à avoir des exposants qui remplissent ce critère-là. Ouais.
Et les acheteurs, est-ce que tu trouves que ça, ou les visiteurs, les acheteurs, est-ce que tu trouves qu'ils ont changé depuis le Covid quel style de personnes tu rencontres?
Alors au début, on avait vraiment des gens qui étaient déjà...
Que branchés au début, je pense.
Ouais, c'est ça. On avait beaucoup de gens qui étaient déjà assez branchés dans cette alternative-là. Aujourd'hui, je trouve que c'est différent. On a vraiment des gens qui commencent à acheter seconde main, qui commence à se dire par exemple, pour acheter mon luminaire, je vais peut-être pas aller chez Ikea. Là, ça commence à, depuis le Covid, effectivement, six mois après le Covid, les choses commencent à bouger un peu plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup du Black Friday, mais il y a des gens qui sont pas dupes sur ça, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'il y a...
On peut faire un slow Black Friday.
Exactement, c'est ça. C'est ça, et je pense que maintenant, toutes les techniques commerciales que les gens sont en train... Enfin, que les grosses enseignes sont en train de mettre en place, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes.
Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les vendeuses, à l'intérieur des halles, la halle Canopée, halle Prairie, halle Clairière, je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire, mais c'est là où se situent tous les vêtements, ouais. la fripe aussi. Il y a du vintage, mais il y a aussi c'est surtout de la seconde main qu'il y a.
Alors, on a une prospection sur les boutiques qui font 50% vintage et normalement à peu près 50% de seconde main. Après seconde main, aujourd'hui, le vintage c'est 20 ans, donc c'est-à-dire que maintenant les années 2000 sont devenues vintage.
Les années 2000, on dit Y2K. Bon,
voilà, c'est ça. C'est un peu Y2K.
Et on peut trouver quand même des marques d'après 2000, mais qui sont de la seconde main ou pas?
Normalement pas tant, mais on est sur vraiment du vintage, donc avant année 2000, et après effectivement il peut y avoir quelques pièces de seconde main.
Voilà, en tout cas il n'y a que du seconde main de toute façon, Et que ce soit des accessoires, des vêtements, des meubles, de la déco, les chaussures, il manque un petit peu de nourriture, je trouve ça serait sympa de faire du vegan, tu vois, du végétalien, végétarien, incorporer ça, voilà, qu'est-ce que je voulais demander encore que j'aurais oublié? Bon, on a vu les vendeuses. Je pense qu'il y a une participation, non, pour les vendeuses. Hein.
Alors, nous, effectivement, tu veux parler du modèle économique, c'est ça?
Oui.
Ouais. Effectivement, nous, on demande une participation financière pour la location du site. Il y a souvent deux tarifs, un tarif vintage, un tarif créateur. Nous, derrière, on s'occupe de l'organisation, de la prospection, des relations presse, des réseaux sociaux, etc. Voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner l'exposant et d'être le médiateur entre le lieu d'accueil et eux. Voilà.
Est-ce que vous avez des partenariats avec des associations?
Alors, on avait un partenariat avec Réseau Éthique pour les events du mois de septembre. On avait travaillé sur une signalétique lors des marchés où on expliquait le prix du vintage, le prix de la seconde main, le prix d'une création made in France, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer l'année prochaine. Au mois de mars, on aimerait faire un marché avec Grande Contrôle sous la bannière un marché queer, donc avec du coup Grande Contrôle en partenariat. L'idée, c'est de continuer ces partenariats ponctuellement, ouais.
Et aussi, par exemple, je sais pas, moi, je pensais à des stands avec des associations pour les animaux ou...
Mais c'est des choses qu'il faut qu'on bosse effectivement pour l'année prochaine. C'est vrai qu'on a été un peu la tête sous l'eau cette année parce qu'on n'est que deux derrière The Gros Marché et qu'on n'a pas encore, le temps.
J'ai vu une de tes collègues là.
Oui, c'est une bénévole, c'était ma première bénévole.
Et ben voilà, si vous recherchez des bénévoles.
C'est ça, mais c'était ma première bénévole. Écoute, elle s'appelle Héloïse et elle m'a aidée à faire tous les réseaux sociaux cet après-midi.
D'organisation quand même.
Écoute, on prend le pli. Hein. Le matin, c'est l'install. Le midi, c'est un peu le rush parce que les derniers préparatifs. Et l'après-midi, c'est les réseaux sociaux. Donc, voilà.
En tout cas, The Ground Control, c'est tout le temps.
Ouais.
Mais que le week-end.
Non, le Ground Control, la boutique est ouverte le mercredi à dimanche. Et on fait deux nocturnes, le vendredi et le samedi soir, jusqu'à 22h.
Merci Daisy et Julien. Bravo pour The Gros Marché qui privilégie les rencontres, les partages, le contact physique avec les exposants, l'univers d'une marque. Toucher, voir, essayer, écouter, tester, c'est important car ça individualise les exposants. Et justement, je vous propose de rencontrer Alexandre pour Broplante. Chineur, je l'ai rencontré sur la cité fertile, sur The Gros Marché. Il compose des créations avec des plantes sur des supports vintage de seconde main, et ça c'est très important. Donc il chine des pots, des tasses, des théières, des grille-pains, même des gants de boxe et même un minitel. Et avec ça, il va faire des compositions de plantes. Allez, on l'écoute. Pourquoi ce nom ?
Parce que c'est une alliance entre la brocante et les plantes.
Ah, super !
Et du coup, l'association des deux a donné Broplante.
Ça fait longtemps que tu fais ça ?
Avec Émilie, on a créé ça en février de cette année.
Ouais.
Donc c'est un jeune projet.
Ouais.
Mais plutôt abouti parce que moi, étant horticulteur de formation,
voilà. Et puis elle est attachée de presse, donc ça aide bien.
L'association des deux a donné Broplante et aujourd'hui au Gros Marché, on est sur quelque chose de très très abouti, qui fonctionne bien et comme vous avez pu le constater,
il y a... Dis-moi alors, vous, Broplante, il y a des mots plantes, tu vends des plantes, tu crées aussi à travers des plantes, mais il y a aussi de la déco. Donc vous chinez, vous êtes des chineurs de déco.
Oui, c'est une passion commune, les plantes et la Chine.
Et la Chine, mais pas les vêtements. Hein. Vous faites surtout, parce que moi j'ai vu le stand, là, vous faites plutôt de la déco. Hein.
Oui, c'est des petits objets de déco, de la vaisselle, mais pas de vêtements. C'est pas quelque chose qui nous attire pour le moment. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, on n'a pas...
Et vous avez commencé d'abord par les plantes ou par la déco ?
Les deux en même temps.
Les deux en même temps. Alors, raconte-moi les plantes. Parce que j'ai vu que les plantes, c'était pas comme ça, un pot. On met la plante dans le pot avec de la terre. C'est autre chose. C'est des créations à travers des plantes, à travers les plantes.
Oui, c'est des compositions végétales. Donc
D'abord des compositions végétales.
D'abord des compositions végétales.
C'est ça. Et c'est vraiment un paysage dans chaque objet. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une histoire dans chaque objet et que ce ne soit pas juste une plante posée. C'est deux, trois, quatre, voire une dizaine de plantes dans le même objet qui composent...
C'est-à-dire l'objet, c'est-à-dire par exemple, tu vas prendre une plante, tu vas les cueillir je ne sais pas où tu les trouves les plantes, hein, tu vas les acheter ou tu les cueilles, j'en sais rien. Et après, tu les mets en pot, mais en pot créatif, c'est ça ?
En fait, je redonne une nouvelle utilité à un objet, une théière, une tasse, un bol.
Et avec des plantes.
C'est ça.
Ah, Mais la plante, elle va vivre dans le, par exemple dans la théière, sans problème.
Exactement, je mets tout ce qu'il faut.
Et c'est ton secret alors ça?
C'est ça, mon savoir-faire.
Ton savoir-faire.
Oui, mais alors on dit pas que dans un pot il faut qu'il y ait un trou en dessous?
Si, mais avec mon savoir-faire, on se dispense de ça.
Ah ben c'est génial ça, donc ça tu le gardes, c'est ton petit secret.
Oui.
Et donc tu trouves aussi bien des plantes, mais ça peut être aussi des fleurs et de saison.
On commence à faire des fleurs coupées. Après moi, je ne me lance pas dans les fleurs parce que j'aime les choses qui vont dans la durée. En sachant que les annuels, les bisannuels, c'est des choses qui sont amenées à mourir. Et ça voudrait dire que l'objet est temporaire. C'est-à-dire qu'on en profite pendant un temps. Ouais. Et après, il est voué à soit de nouveau la destruction, soit à refaire un travail dessus. Mais ça, c'est pas quelque chose que je serais amené à faire moi. Ça voudrait dire que le client, par la suite, replanterait une nouvelle plante dedans. Donc pour le moment, c'est pas ce que je fais.
Alors, si par exemple, on t'achète une création... une broplante, tu donnes tout ce qu'il faut pour qu'on s'en occupe ou la plante elle va se débrouiller toute seule?
C'est un mélange des deux, en sachant que quand je crée pas le lundi pour le mardi. Les choses sont créées au minimum 2 semaines à l'avance pour qu'il y ait un temps d'acclimatation, pour qu'il y ait de la surveillance, pour que je puisse rééquilibrer les compos. Donc les plantes se débrouillent toutes seules en partie, mais je donne les trucs et astuces pour bien s'en occuper.
Est-ce que parfois les gens te commandent quelque chose ou toi tu dis ben non, ma création c'est moi qui l'a fait et si ça vous plaît, vous pouvez acheter?
On me commande des choses, après il faut passer le pas. Poser la question de ce qui est possible.
Oui, mais ça se discute, ça.
Ça se discute, mais moi, j'aime bien qu'on me propose un objet, peu importe l'objet. J'ai créé dans des grippins, dans des gambox, dans
des
vitelles, dans tout et n'importe quoi. C'était des commandes. Et moi, je prends l'objet, je regarde la faisabilité et en fonction, je fais. Il faut juste l'objet et le type de plante et après je vois si c'est possible.
Oui, parce que les accords ne sont pas toujours... ça peut être dissonant, je dirais, comme la musique.
Exactement.
Ouais.
Ça, j'avais pas pensé. Et donc, ce sont toujours des plantes vertes ou ça peut être des arbres, des petits arbres
et je n'ai aucune limite.
Tu n'as aucune limite.
Donc, mais alors, tu veux pas les fleurs encore? Parce que ça pourrait être des fleurs pérennes. Genre les fleurs qu'il y a dans les cimetières.
En sachant que je bosse par collection et par saison, pour le moment, j'y suis pas encore arrivé, mais ça pourrait arriver que pendant 6 mois, je me prenne de passion pour une certaine catégorie de plantes et que du coup, ça se voit dans la nouvelle collection, dans les nouvelles collections broplantes.
Ce sont toujours des plantes que tu trouves en France ou tu vas en trouver en Europe?
En fait...
dans le sud de la France.
J'allie le bouturage aux plantes vertes que j'achète. En fait, c'est un mélange. Il y a des plantes que je bouture. C'est vraiment un mélange de tout ça qui donne broplante. Et c'est parce que toutes les plantes sont vraiment uniques que j'ai cet intérêt-là. J'ai aucun intérêt à faire des choses en série. Ça ne m'intéresse pas et c'est pas l'âme de broplante.
Tout jeune projet d'il y a un an, bravo Alexandre et Émilie. Broplante est originale, aboutie, les créations végétales ont une histoire et se marient très bien avec leur support. Alors le plus, c'est vraiment redonner une nouvelle utilité à un objet, le valoriser autrement, composé par saison, des supports incroyables, des créations uniques et surtout il n'y a pas de série chez Broplante.
Talking to you is so sad.
toujours ensemble sur IDFM, la radio du bien-être, et Animaux et Nature jusqu'à 13h chaque premier samedi de mois. Aujourd'hui, je vous fais découvrir The Gros Marché.
Donc après Broplante et les créations, les superbes créations Broplante, j'ai en face de moi une autre créatrice qui est plutôt dans la mode vintage, en tout cas de la seconde main. Est-ce que tu peux nous parler de toi déjà, de ton parcours et me dire ton prénom ?
Alors moi je m'appelle Julia et je suis la créatrice de la marque Véhémente. Et donc en fait ça consiste, enfin mon travail consiste à chiner des pièces seconde main et à les peindre à la main. Donc ce sont des pièces uniques et je reproduis jamais deux fois le même design.
Et c'est toujours de la seconde main, donc c'est deux choses.
Tout à fait, donc moi je me fais un point d'honneur à ne travailler qu'avec de la seconde main. Je prends des pièces de seconde main de très bonne qualité, mais ce qui peut être intéressant c'est par exemple trouver une veste Levi's seconde main absolument magnifique, mais il y aura une petite tache. Et moi, ça peut être hyper inspirant pour moi, cette petite tache, de la recouvrir ou de l'utiliser dans mon motif. Donc, en fait, on va transformer ces petites pièces abandonnées du dressing, où on se dit, ah bah, il y a une petite tache, bah, je peux pas la porter. Ah bah, si, on va en faire une pièce, justement, complètement unique, en utilisant peut-être cette petite tache ou en la recouvrant, tout simplement.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Tu fais ça depuis combien de temps ?
Alors, je fais ça depuis un an et quelques mois.
Ah oui ? Et t'as eu l'idée comment ? Tu étais déjà dans le vintage, tu étais déjà dans la seconde main ?
Alors moi j'étais en fait pendant le premier confinement où on était tous chez nous bloqués, moi en fait à la base je suis dans le commerce, enfin je travaillais dans la cigarette électronique, j'étais manager d'une boutique, absolument rien à voir, après j'ai toujours peint, et pendant le confinement en fait j'ai commencé à acheter sur Vinted. Au lieu d'acheter sur Asos et Pretty Little Things comme tout le monde, j'ai acheté sur Vinted, j'ai découvert la seconde main. Et après, je me suis dit, je peignais aussi pendant le confinement et je me suis dit, on va faire les deux ensemble. Puis voilà, tout simplement.
Et donc, tu peignais sur papier ou sur toile.
Exactement. Hein,
tu étais peintre, mais pas professionnelle, tu faisais ça juste pour t'amuser, voilà.
Pas du tout, moi j'avais eu une très petite expérience aux Beaux-Arts qui a été un désastre pour moi, parce qu'on m'a vraiment cassé du sucre sur le dos en disant que je n'irais jamais loin et que je faisais, désolé du terme, mais c'est le terme que cette grande professeure entre guillemets a utilisé, que je faisais entre guillemets de la merde. Donc pour moi je n'allais plus jamais toucher à un pinceau et c'était terminé, et le confinement m'a fait refaire des petites toiles, des petites bêtises comme ça.
C'est fou ce que le confinement a apporté dans la créativité des gens.
Peut-être que sans le confinement j'en serais pas là.
Peut-être. Et donc tu fais ça depuis le confinement, mais quand même peindre sur du papier et peindre sur du tissu, c'est pas du tout la même chose.
Alors pas du tout, parce que j'ai fait, c'est que quand les magasins ont réouvert, le confinement a cessé, j'ai repris mon activité en la cigarette électronique, et puis après il y a eu un deuxième confinement où j'étais ouverte parce que considérée comme essentielle, mais j'ai continué mes recherches, j'ai testé avec des morceaux de tissu que j'avais chez moi, j'ai vraiment patouillé quoi.
Oui, alors c'est de la peinture à... Bon, on va pas donner tes secrets, bien sûr, mais c'est de la peinture, ça peut pas être de la peinture à l'huile.
Non, pas du tout. Voilà. En fait, je travaille avec une peinture textile, justement pour... Alors, même si, par exemple, je pourrais tout à fait travailler à l'acrylique, parce que c'est une peinture qui tâche beaucoup et qui ne part pas au lavage, mais une peinture textile, l'intérêt, c'est que je peux vraiment la fixer et garantir au client une longue vie sur son vêtement, voire une vie ad vitam aeternam, avec un lavage à 30 degrés, tout simplement.
Voilà, ça, c'est important pour les auditrices et les auditeurs, qui puissent savoir qu'il y a une pérennité.
Tout à fait. Le but, c'est de... On en fait des pièces fortes du dressing.
Mais ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a un côté, je trouve, très écolo, des fleurs, des champignons. tu pourrais faire des maisons.
C'est vrai. Mais déjà, j'aime énormément les animaux. Je crois que c'est toute ma vie. Là, je trouve que la beauté, dans la beauté de l'animal, moi, je m'inspire beaucoup d'atlas, de vieux atlas que j'achète en brocante, avec des planches anatomiques d'oiseaux, les oiseaux du monde, etc. J'en ai plein chez moi, j'en ai beaucoup trop d'ailleurs. Et j'aime énormément les animaux, et je ne me vois pas peindre autre chose que la nature, parce qu'il n'y a que ça qui me ressource, il n'y a que ça qui m'inspire, et j'ai grandi à la campagne avec tous les petits animaux, les petits insectes et les chats, beaucoup.
Ah, tu fais plus dans les vêtements de filles ou les garçons aussi ?
Alors au début, j'ai fait beaucoup de femmes.
Les enfants ?
Et oui, alors, au début, je faisais beaucoup de femmes, parce que j'avais pas de mannequin, j'avais pas de modèle, j'avais que moi. Donc c'était un petit peu compliqué. Et maintenant, j'ai eu de la demande pour de l'enfant, donc je fais un petit peu d'enfant. Après, il faut essayer de trouver la bonne taille, parce qu'il faut quand même que l'enfant puisse le porter longtemps. On sait à quel point un bébé, ça grandit vite. Voilà, et je fais maintenant de l'homme, et l'homme, ça cartonne.
Et, j'aurais pas pensé, dis donc.
Jure, il y a énormément de demandes, justement.
Alors, ils demandent quoi ? Des petites fleurs ? Des petits oiseaux ?
J'ai fait mon tout premier défilé à Limoges la semaine dernière. J'ai organisé de A à Z dans un bar... assez lounge, voilà. Je me suis dit, je suis arrivée, j'ai dit, voilà, on va faire défiler les mannequins. Et j'avais fait une tenue entièrement avec des zébrures de tigre et un gros tigre dans le dos. Donc là, tout de suite, ça a plu parce que, et puis il y avait, moi j'aime bien faire des duos, donc signe blanc, signe noir. Là, il y avait le tigre et sa compagne, le zèbre, donc le proie, le prédateur, alors, tout s'inverse.
Excuse-moi, mais là, t'avais fait les filles et les garçons pour le défilé?
Alors, il y avait filles, garçons, et j'ai fait aussi quelque chose d'inclusif. Donc toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau, tous les genres. Voilà, et c'était vraiment parfait. Ouais.
Et alors donc, les hommes, ils préfèrent quoi comme motif? Les zèbres, bon, ça j'ai compris.
Bon, le tigre, ah ouais, le tigre, il a plu. Après,
c'est masculin.
Les oiseaux, les chouettes. Après, souvent, les gens vont avoir un coup de cœur sur un animal.
Les garçons.
Ah, les garçons. Ah, toi, c'est les garçons qui t'intéressent.
Non, mais
en général, et les garçons particulièrement, vont avoir un coup de cœur sur un animal totem. Ils vont dire, ah, une chouette, ah, mais j'ai même tatouage. Ah, une chouette, ah, mais moi, on m'appelle comme si, comme ça, c'est mon surnom. Ou voilà, ou alors un coup de cœur global sur un animal, peut-être, ou un signe astrologique, je sais pas. J'ai travaillé sur les constellations aussi, j'avais fait une veste constellation pour hommes, et puis il y avait la constellation de son signe astrologique. Enfin, voilà, il y avait. C'est le coup de cœur.
Alors, moi, je te disais les hommes parce que je pensais pas que les hommes étaient intéressés par la peinture sur vêtements. Je pensais que c'était très féminin, c'est pour ça que je te disais. Mais les filles demandent aussi plus de choses faites. Plus d'animal, plus de motifs animal ou plus de végétal ou...
Je peux vraiment pas te dire. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'instinct. Et en fait, vu qu'en fait, on peut appeler ça de la custom, la customisation, à partir du moment où on dit custom...
C'est pas de l'upcycling, c'est de la custom.
C'est de l'upcycling, c'est de la customisation, c'est de la peinture textile. Tout ça rentre dans le même moule. Hein. On peut utiliser le terme qu'on souhaite. Mais voilà, donc non, franchement, en fait, je peux pas te dire vraiment. Il y a quelqu'un qui va arriver sur le stand et qui va dire, ça, c'est pour moi.
C'est pour moi, oui. C'est vrai que j'ai eu des petits coups de cœur, notamment pour ta salopette robe là, elle est superbe.
Coquelicot
là.
Elle est beaucoup regardée .
Ouais, voilà. Et puis la petite veste en jean aussi court. Tu travailles beaucoup sur le jean?
Principalement des matières comme le jean ou le bleu travail qui vont être assez rigides et qui vont mieux supporter. Parce que sur un t-shirt en coton, vous voyez, ça peut alourdir la matière et ça va être beaucoup moins agréable et moins joli au rendu.
Ah bon?
Et ça risque de boulocher également. Alors un jean vintage.
Et des imperméables, des choses comme ça? Alors, non.
Là, ce sera un autre type de peinture. J'avais essayé un peu le cuir, mais je suis pas trop. Déjà, je suis un peu animal friendly, donc je suis pas trop cuir. Et deuxièmement, c'est
Mais du cuir végétal, enfin bon.
Ouais, je sais pas, voilà. Si ça... Après, moi, c'est vrai que je suis vraiment sur le jean et le bleu de travail, la combi. Puis il y a tellement de choses en jean maintenant. Il faut juste regarder la qualité.
Et les chaussures?
Alors, les chaussures, c'est en travail. Ce sera
pas... c'est un petit secret alors.
Ouais, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de customisation de sneakers, donc de baskets type Air Jordan. Vraiment grosses sneakers. Moi, je suis pas une spécialiste, mais j'aime beaucoup les Converse. Donc, je pense qu'en 2023, il y aura des Converse peintes à la main. Voilà, ça, c'est quasiment sûr.
Eh ben, écoute, on te souhaite une longue vie parce que je trouve que c'est génial. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Super, Julia, pour tes créations customisées, upcyclées et peintes sur des vêtements chinés par toi-même. Et moi, je trouve ça vraiment génial de s'inspirer de ton métier de peintre pour redonner vie à des vêtements et des accessoires. Alors, le plus, eh bien, l'homme a sa part belle dans les créations Vehement Painting. Julia organise aussi des défilés. Elle a l'amour des animaux et elle le fait partager sur ses créations et particulièrement, moi j'adore le jean relooké, c'est très tendance. J'ai rencontré Edna et sa boutique Shein With Me sur The Gros Marché du Ground Control. Elle adore les années 80 et elle se balade un peu partout en France, voire même un petit peu en Europe. Quand elle part en vacances, elle n'oublie jamais de faire une petite journée de Chine et elle déniche des pièces originales un peu partout justement parce qu'elle se balade et donc elle les propose à la vente sur son stand. On l'écoute. Depuis quand tu fais ça ?
Ça fait 6 mois que je me suis lancée aujourd'hui.
6 mois seulement et t'as déjà tout ça ?
Oui, je chine très activement le week-end.
Surtout le week-end?
Oui, parce que j'ai un emploi à côté. Donc c'est
oui, comme beaucoup. Et pourquoi tu t'es lancée là-dedans?
En fait, depuis toute petite, je chine.
Quand même?
Ah oui, à l'origine, c'était des jouets, forcément. Je me souviens.
C'est drôle!
J'étais dans la poussette avec mes parents. Et quand je suis commencé à faire mes études, j'ai commencé à chiner des vêtements parce que forcément, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de moyens. Et du coup, pour moi, c'était la manière la plus économique d'avoir des vêtements, quoi.
Ouais. Mais donc, tu chinais que pour toi?
Oui, que pour moi. Voilà.
Pour les copines aussi, un peu?
Du tout, vraiment que pour moi. Je suis égoïste.
Ouais, non, mais t'as raison. Hein. Et donc, pourquoi justement tu t'es lancée dans le vintage ? Parce que tout ce que tu as, c'est au moins au-dessus de 20 ans. Pardon. Hein.
Oui, tout à fait.
Pourquoi t'aurais pu chiner des marques actuelles, de fast fashion ?
Ben, en fait, je suis très très intéressée par l'histoire. En fait, je suis professeure d'histoire-géographie. Voilà, ouais. C'est mon activité principale et en fait l'histoire du vêtement m'a toujours intéressée et du coup bah, c'est naturellement en fait, que je me suis dirigée vers le vintage.
Ouais. Particulièrement quelle période ?
J'adore les années 80. Ah, c'est oui. Vraiment,
et pourquoi ?
Les couleurs, le fluo, les coupes avec les grandes épaulettes, la taille fine, enfin j'adore ce genre de.
Est-ce que tu as des pièces des années 80 que tu adores hein, ou des marques que tu adores hein. Pas forcément des mains.
Non, c'est vraiment en fait la couleur, la matière et la coupe du modèle, du vêtement qui va vraiment m'intéresser en fait.
Alors, tu as à peu près combien de références ici, nous sommes donc à la Bellevilloise. Excusez-moi, parce que j'ai mal à la gorge. À la Bellevilloise pour, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Le Conscious Market.
Ah, c'est The Conscious Market, voilà. D'accord. Et donc, tu as à peu près combien de références là ?
J'en ai 150.
150 là exposés. Donc admettons 70 par 50 par.
Ouais, plus ou moins, exactement. Voilà.
Donc tu as de toutes les couleurs, de toutes les marques, des petites marques, c'est ça que tu aimes ?
Exactement, et de toutes les tailles aussi surtout.
Ah, voilà. Mais de toutes les tailles. Ouais. Alors tu vas chiner beaucoup et tu es itinérante aussi, ça j'avais remarqué. C'est-à-dire que tu peux aller même en Europe, hein. Si c'est possible, en Italie ou en.
Pour des stands
Non seulement pour des stands, mais aussi pour chiner.
Alors, dès que je voyage, ça c'est certain, ouais. Je fais au moins une journée de Chine active. Mm-hmm. Après, pour l'instant, je suis restée en France. Mais pourquoi pas à l'avenir aller un petit peu plus loin.
Et tu fais les vides-greniers, tu fais tout quoi.
Ah, tout.
Qu'est-ce que tu préfères faire
Les vides-greniers.
Les vides-greniers.
Ah, les vides-greniers. Et en fait, ce que j'aime, c'est discuter avec les gens des pièces qu'ils me vendent. Mmh. Et je trouve que ça change des grossistes ou quoi. J'y suis jamais allée, hein, mais de ce que j'ai entendu dire, moi, je préfère le contact, en fait.
Et quelle est la pièce que tu as adorée le plus, qui est peut-être déjà partie ou que tu as gardée pour toi ? Quelle est la pièce que tu as vraiment adorée ?
La pièce que j'ai vraiment adorée, je l'ai gardée pour moi. C'est un long manteau en cuir avec un col à fourrure. Et donc c'est un manteau qui tombe jusqu'aux chevilles et il est absolument magnifique, il date des années 80.
Et tu l'avais chiné en vide-grenier ?
En vide-grenier, exactement, à un prix dérisoire et c'était mon coup de cœur.
Et est-ce que tu as senti que tu avais évolué dans ta chasse au trésor aux merveilles ?
Oui, parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à chiner pour d'autres personnes que moi, donc concernant les styles, même les tailles, c'est-à-dire qu'au début, je prenais des choses qui m'allaient à moi, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc du coup, j'ai dû ajouter une palette plus large de tailles, je vais jusqu'au 46, alors qu'avant, vraiment, j'étais concentrée sur le 36, 38, le 40, c'était vraiment exceptionnel, on va dire.
Mais c'est vrai que maintenant, les filles préfèrent porter des vestes plutôt larges. Alors, tu chines essentiellement du vêtement. De quoi ? Des vestes, de
tout ? Vraiment de tout. En fait, je marche au coup de cœur.
Des combinaisons aussi pour dormir ?
Si j'en trouve, si j'en trouve. En fait, c'est vraiment... Quand je vais chiner, je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc,
tu vas trouver.
Exactement.
Tu dis pas, je vais là, il faut absolument que je cherche, que je trouve un vêtement.
Exactement. C'est-à-dire que je vois une pièce, elle me plaît, je la prends.
Alors moi, ce que j'ai remarqué dans ton stand, et que je t'avais rencontré sur un autre événement, et le style de tes vêtements, mais aussi... quand on vient sur ton stand, ça sent bon. Et c'est pas toujours comme ça chez les vendeuses. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, le fait que tu sois itinérante. Ce qui m'a frappé sur le stand de Chin With Me, c'est l'odeur. Les pièces sont lavées et repassées avec soin. Il y a beaucoup de couleurs, du fluo. Et j'aime aussi l'idée de chiner partout en France pour trouver des pièces d'un pays à l'autre, ça change forcément. Et Edna est une chineuse active et surtout, ses pièces ne sont pas chères du tout. Vous êtes bien à l'écoute des programmes d'IDFM sur la radio du bien-être en compagnie d'Animaux et Nature jusqu'à 13h. Je vais conclure cette émission avec Elodie et sa boutique Bonjour Hier, présente sur beaucoup d'événements qui regroupent des exposants vintage comme The Gros Marché, Sa recherche est tournée vers le passé, sélectionné à la pièce. Particulièrement passionnée par le vintage, elle n'a pas attendu les confinements de la crise sanitaire pour créer sa boutique. Et oui, elle a commencé bien avant. Bonjour Hier, c'est ta marque,
hein,
et tu t'appelles Elodie et tu fais ça depuis combien de temps ?
Donc je fais ça depuis 2018.
Oui, alors après la crise Covid et pourquoi ?
Alors j'ai commencé
avant la crise Covid.
Donc en fait avant j'étais chef de produit pour des grandes marques de prêt-à-porter et en travaillant avec les stylistes, je me suis rendu compte qu'en fait on recopiait et on recréait des pièces qui existaient déjà puisque moi je suis une chineuse invétérée depuis longtemps. Je me suis dit c'est quand même dommage d'aller refabriquer des pièces de très moyenne qualité alors que des très belles pièces originelles existent déjà. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure du vintage.
Mais donc tu étais quand même une chineuse, même quand tu étais dans le prêt-à-porter, tu étais dans la Chine quand même.
Exactement, j'ai commencé mais depuis très très longtemps, depuis très jeune, à chiner surtout de la décoration, du mobilier et puis après du vêtement parce qu'en chinant des petits objets, j'ai vu qu'il y avait énormément de vêtements de très belle qualité. Et...
Alors tu fais uniquement du vintage, hein. Oui. Tu ne fais pas après 2000 entre 90 et 2000.
Je m'arrête aux années 90. Et voilà, mes années de prédilection, c'est surtout les années 70.
Ah, t'aimes bien les années 70.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, je ne sais pas, peut-être inconsciemment, parce que je suis de 72. Et donc, quand je regarde même les albums photos, que je vois ma mère habillée avec toutes ses tenues, c'est...
Et tu en as gardé ?
J'en ai quelques pièces, oui. J'ai un petit manteau de fourrure.
La fourrure, c'est pas très écologique ?
Non, c'est pas très écologique. Mais c'est une pièce qu'elle m'a passée de mère en fille. Elle était là.
Dis-moi, combien tu as de références ?
Ici, j'ai 150 pièces.
150 pièces, donc tu fais de tout, y compris des accessoires,
des
je vois ton stand.
Voilà.
On va aller peut-être faire un petit tour sur,
oui.
Sur ton stand, parce que là, on s'entend quand même.
Des bijoux, du foulard.
Du foulard. Et tu fais un peu de chaussures aussi, non ?
Très peu. Les chaussures, c'est pas trop... Moi, personnellement, j'achète pas de chaussures de seconde main. Et donc, ce sont les accessoires que je fais pas.
Et tu préfères quoi comme genre de pièces ? Plutôt des vestes, plutôt des manteaux, plutôt... Qu'est-ce que tu chine le plus en fait.
Ma sélection elle est vraiment très personnelle. Je chine au coup de cœur et à la pièce. J'aime bien les pièces qui ont quand même un petit air intemporel, qu'on peut mixer avec des pièces plus actuelles, mais qui sont faciles à porter et qui dans 10 ans, 20 ans seront toujours d'actualité.
Mais c'est ça le vintage, c'est que c'est quand même du beau tissu,
des belles matières,
et bien travaillé, bien designé. Alors que maintenant la fast fashion et même l'hyper fast fashion, maintenant je ne citerai pas la marque. Parce qu'il ne faut pas lui faire de la pub. Mais toi, tu étais dans la fast fashion avant ou pas ?
Alors, j'étais pas vraiment dans la fast fashion puisque je travaillais avec des grandes marques qui étaient quand même un peu plus qualitatives. Je vais pas citer les marques là aujourd'hui, mais non, c'était pas de la fast fashion.
Quelle est ta marque vintage préférée ?
J'aime beaucoup les blazers, donc les blazers de Veil par exemple, qui sont très belle qualité, qui sont hyper intemporels. J'ai pas de marque de prédilection, c'est vraiment le
au coup de cœur.
Au coup de cœur, à l'imprimé, à la matière.
D'accord. Bah écoute, merci.
Je t'en prie, Isabelle, merci à toi.
Le plus de Bonjour Hier, c'est le métier qu'exerçait Elodie, puisqu'elle était chef de produit dans une grande marque de prêt-à-porter. Les années 70, évidemment, moi j'adore parce que le vintage de ces années-là, c'est vraiment extraordinaire. Les pièces intemporelles qu'elle présente, faciles à porter. Voilà, l'émission s'achève. Je remercie mes invités et Francky pour la réalisation d'Animaux et Nature que vous retrouvez chaque premier samedi de mois à 12h, de 12h à 13h. Retrouvez mes invités sur les réseaux sociaux @thegrosmarché, @broplante et @legreendoctor, @chine.with.me, @bonjourhier, @vehement-painting, j'espère que je n'en ai pas oublié, et retrouver des photos et vidéos ainsi qu'un article sur le site d'IDFM, ma page Animaux et Nature. Eh bien, vous me retrouvez aussi sur Instagram, Beautyfanzaza, et sur Facebook, Animaux et Nature, faut pas oublier, sur IDFM, Animaux et Nature sur IDFM. Voilà, bisous les sauvages!
Cet amour, c'est incroyable. Tu me fais transpirer.
IDFM en partenariat avec SMS Artistes présente
Mamaïla, Kimounouye, interprété par Paco Manalma.
Moani en caille et des belles Timamaï. Moun connaît moins en chaille, moani en bel travail. Moins qu'à parler français, moins qu'à parler anglais, l'argent moins qu'à tomber. Mais la vie arrête, yo les fait nous peine, nous fait nous souffrir pour nous pas connaître qui nous nouillait, qui ça nous l'est.
C'était en partenariat avec SMS Artistes.
Mamaïla, Kimounouye, interprété par Paco Manalma. SMS Artistes, la musique pour tous. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok.